j'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine là, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. MJ imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine là, père je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, veut y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse. Je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses beaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des quais de métro. À deux sur la moto, GTO. MJ imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, là, père je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Au début elle m'a rionné. Quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel. On a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer. Je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'air la manière. C'est ma folle pas la ma cavalière. Les parasols. Mais là je m'imagine, là, père je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. 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 Imagine.
Eh oui, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. Je souris, vous ne voyez pas, mais je souris parce que il se trouve que le morceau qu'on vient de passer sans s'être concerté est le morceau préféré de notre invité de l'émission, qui elle est vraiment au cœur des quartiers populaires, mais c'est un pur hasard. On a le plaisir aujourd'hui, effectivement, de recevoir Claire Gabiage. Claire, bonjour.
Bonjour.
Alors, Claire, on est absolument ravi de vous recevoir, déjà parce que vous nous accueillez, mais aussi parce que vous êtes au cœur justement de ces quartiers populaires. Vous avez, pour vous présenter, vous avez deux activités. L'une qui est conseillère municipale à la mairie de Bagneux, et puis par ailleurs, vous dirigez plusieurs centres Paris Animes qui sont sous l'égide de la Ligue de l'Enseignement. Et on va passer du temps, vous allez nous expliquer un petit peu votre engagement au centre de Paris-Nîmes, ce qu'est Paris-Nîmes et ce que ça veut dire d'avoir un centre Paris-Nîmes au centre d'un quartier populaire. Alors, je vous l'ai dit, Aligre a décidé, et on ouvre cette semaine avec Claire, on en est absolument ravis, a décidé de consacrer la semaine au quartier populaire et à décliner ces thèmes. Alors, durant la semaine, vous allez avoir beaucoup d'intelligence qui va se réunir, puisque l'émission Dialogue va recevoir le sociologue urbaniste Éric Hamelin sur le thème de comment habiter un quartier populaire. On a entendu et on va réentendre Emmanuel Auriol, directeur du conservatoire de Paris 20e, dans le cadre de l'émission Jazzland. La vie est un roman recevra Thomas Clair autour de son livre sur le 18e arrondissement. Éric Pessan sera là pour nous parler des ateliers d'écriture en milieu défavorisé. Sur l'émission Coin de Neuf en histoire, on aura Thibaut Tellier qui viendra parler de l'histoire des banlieues. Sur l'émission Tocade, vous aurez la rencontre de Pierre Guilbert sur le thème quartier populaire, défaire le mythe du ghetto, ce qui est un peu le thème central de notre émission. Nous aurez les représentants de Positive qui viendront parler du thème de l'aide au retour à l'emploi dans les quartiers populaires. L'harmonie du soir recevra Mathieu Brault, chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Des Notes basé à Montreuil, qui fait un travail formidable. Donc, et puis aussi une émission sur les quartiers populaires dans la littérature. Donc, vous voyez, Claire, on va se donner le temps au temps, et c'est important. On n'est pas une radio mainstream, donc notre but, c'est vraiment de pouvoir donner le temps et de pouvoir réfléchir ensemble sur ce que représentent les quartiers populaires. Mais avant de vous donner la parole, Claire, je voudrais juste qu'on précise un peu notre pensée, parce que les quartiers populaires, c'est pas une vague définition, c'est pas une vague idée où on pourrait dire que c'est des quartiers ou de mixité, de quartiers particulièrement défavorisés. Oui, ce sont des quartiers défavorisés, mais ça correspond à une définition précise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste rappeler cette définition. Les quartiers populaires, ce sont des territoires d'intervention de l'État ou des collectivités, de la ville de Paris en l'occurrence, qui sont définis par une loi de programmation. C'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Dont le but est justement de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés. Et en France métropolitaine, mais aussi en Martinique ou à La Réunion, ils ont été identifiés concrètement par un critère qui est celui du revenu par habitant. Et l'identification des quartiers populaires s'est définie sur les bases INSEE. Et donc la liste de ces quartiers, elle est très précise, elle a été définie par un décret qui a été renouvelé le 13 juillet 2024. Et nous sommes ici au centre Paris-Richer que vous dirigez, Claire, vous dirigez deux centres, Dunois et Paris-Richer. On est bien là au centre du quartier populaire.
Alors, si on prend la définition que vous avez donnée de l'État, ben plus vraiment, parce qu'il y a aussi eu tout un détricotage depuis 2-3 ans, où maintenant on a des quartiers en veille. C'est-à-dire que les quartiers qui avaient un peu de critères, un peu en dessous du premier critère, étaient sortis des dispositifs pour une raison d'économie d'argent d'État déjà. Et du coup, là, dans le quartier, la rue Clisson est considérée comme quartier en veille. Et encore maintenant, il paraît que le dispositif va encore changer de nom. Historiquement, oui. Techniquement, plus trop. Mais sans avoir vraiment eu des critères qui changent, plutôt la grille d'analyse a été un peu bougée par l'État.
Quand on regarde la carte justement de ces quartiers populaires, hein, pardon pour les auditrices et auditeurs d'être un peu administratif, mais il y a bien cette petite partie grisée, enfin pas grisée, oui. et effectivement là on est, mais vous dites que c'est en train effectivement de changer. Vous vous sentez, en tant que responsable des centres Paris-Animes, on va parler de ce que sont les centres Paris-Animes, vous sentez des restrictions budgétaires, vous vous sentez menacé dans les allocations de ressources. Vous dépendez de qui ? Vous dépendez de la ville de Paris ?
Oui, on est en délégation de services publics. Donc en fait, les services de la ville nous donnent droit d'administrer les centres Paris-Animes pendant 5 ou 6 ans selon les conventions, avec un projet qu'on définit avec eux et qui permet qu'on est mis à la concurrence tous les 5 ans pour répondre à ces appels d'offres.
Ah oui, une mise en concurrence et effectivement une réponse. Est-ce que, qu'on reprécise, les centres Paris-Animes dépendent de la Ligue de l'enseignement ?
Pas tous. En fait, justement, tous les centres Paris-Animes sont mis en délégation de service public ou en marché, c'est ce qu'on appelle. Et donc, on appelle à concurrence les délégataires qui pourraient répondre à la gestion de ces lieux. Il y a la Ligue de l'enseignement, il y a Actis, il y a plusieurs associations comme ça qui proposent un projet pour pouvoir justement gérer en délégation de service public, parce que c'est un service public, les centres Paris-Animes, il faut le rappeler souvent, qui va les gérer, avec quel projet.
Et alors, donc du coup, le rattachement, il se fait au niveau de la ville.
Oui, c'est ça, la mairie centrale et l'administration qui décident avec nos marchés, comme un appel d'offres, si on gagne le cahier des charges, en fait.
Très bien. Qu'est-ce que avant de parler des missions du Centre Paris Anime, votre engagement au sein de ces, on va continuer à les appeler les quartiers populaires.
Alors, à titre personnel, bah déjà, moi, je suis un pur produit de la banlieue et j'en suis assez fière. Au-delà du quartier populaire, moi, j'ai grandi à Aubervilliers, dans un grand ensemble, qui est encore en rénovation urbaine au moment où je vous parle depuis 35 ans. Donc, ça fait 35 ans qu'il est en rénovation urbaine, ce grand ensemble. Et moi, j'ai fait le choix d'être élue très jeune à Bagneux quand j'ai déménagé pour construire ma vie de femme et construire ma famille. J'ai fait le choix d'emménager en banlieue. Pour moi, c'est un lieu de vie dans lequel je vis. J'ai pas fait seulement ce choix comme beaucoup peuvent faire de jeunes couples, premier enfant, d'être en zone périurbaine parce que le loyer, enfin, il faut se dire les choses. Moi, j'ai fait un choix de vivre dans un quartier populaire parce que c'est là où je m'y sens bien. Et j'ai fait ce même choix. Après, quand je suis devenue directrice de Centre Paris Anime, j'ai commencé dans le 14 à Porte de Vanves. Maintenant, je suis arrivée dans le 13e. J'ai fait des choix parce que je trouve que c'est des endroits où il y a une créativité et des possibilités d'action qui sont assez innovantes et qui remuent un peu. Moi, j'aime pas le calme. J'ai besoin de produire des choses nouvelles et on oublie souvent que dans ces quartiers populaires, il se passe autre chose, en fait. Il y a une énergie, une créativité, justement, peut-être de l'urgence de faire des choses qui fait qu'on peut monter des choses très rapidement et hyper enthousiasmantes, en fait.
C'est cette notion justement de créativité et d'urgence, ça suppose aussi parfois, même parfois il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, d'ailleurs c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir la créativité sur la base de peu de moyens, mais vous, votre rôle c'est aussi quand même d'en apporter des moyens.
Oui, c'est d'en apporter, de réussir à aider les gens à d'une idée un peu folle, d'en faire quelque chose de fond, également notre travail, enfin pour moi, mon travail à la Fédération de Paris, à la Ligue de l'Enseignement, c'est vraiment de dire, voilà, il y a de l'émotion. Je vous donne un exemple. Là, dans ma rue, c'est moche. J'aimerais faire une fête de quartier. OK, mais ça veut dire quoi de faire une fête de quartier? Qui on invite? Qu'est-ce qu'on veut emporter comme message? C'est notre travail de professionnel, pour moi, d'amener du sens et de l'action collective à des envies individuelles et dans l'émotion, de réussir à construire un collectif. Ce qui manque beaucoup, moi, je pense, de plus en plus, fracture post-Covid, ça, c'est encore plus vu. Il nous manquait un moment de vivre ensemble et de collectif. Et ça, on y tient beaucoup à la Fédération de Paris, c'est de réussir à amener les gens à faire du collectif et à améliorer leur vie.
C'est du collectif, ça veut dire à la fois faire société et créer du lien. Il y a juste, si vous me permettez, je voudrais reprendre une phrase dans votre brochure hein, des Paris Anime. Il y a Stéphane Alexandre, qui est délégué général de la Fédération Paris de la Ligue de l'Enseignement, qui dit que les centres Paris Anime sont des lieux pour faire société. Ça vous parle ?
Oui, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Nous, ce qu'on porte vraiment, en tout cas nous comme délégataires, quand on postule au Centre Paris Anime, ce qu'on porte, c'est aussi un projet et des idées. C'est-à-dire que voilà, on fait des actions tout au long de l'année, on essaye de banaliser des semaines pour discuter lutte contre les discrimes, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, c'est pas toujours confortable de parler avec des usagers qui viennent vouloir faire du karaté ou de la zumba. Je leur dis en fait, cette semaine, on va discuter d'autres choses dans le local, on va vous emmener à amener une réflexion. C'est pas forcément là où on nous attend tout le temps, parce qu'on pourrait aussi être dans une prestation de service qui serait presque plus confortable et moins énergivore. Je dormirais peut-être un peu plus si on était que dans de la prestation d'activité et qu'on n'essayait pas d'amener autre chose.
On fait une pause musicale et on va parler justement de ce... C'est aussi un challenge. En fait, vous êtes une femme de combat. C'est pas complètement évident ce que vous êtes en train de dire là.
Oui, je suis une femme de combat. Je ne peux pas dire non, oui. Mais y compris parce que je travaille dans des lieux qui font sens avec des valeurs et c'est aussi pour ça que je m'y reconnais avec la Ligue. C'est que quand je me réveille le matin, je sais où je vais, quoi. Et je serai capable de travailler dans un lieu qui n'aurait pas comme motivation d'abord les valeurs.
Et on fait cette pause et on va parler d'éducation populaire.
Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. man, look at my life. I'm a lot like you were. My life, 24 and there's so much more. Even alone in a paradise, it makes me think of you. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that will go into dust, rolling on to you. In your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. All day through. Oh, one look in my eyes, you can tell that's true. Oh, man, look at my life. I'm a lot like you were. Look at my life. I'm a lot like you were. Like you were.
Ligre FM 93.1.
Oui, toujours sur Aligre FM, dans le cadre de notre semaine thématique, on a la chance et le plaisir de recevoir Claire Gabiache, qui, entre autres, est responsable de plusieurs Paris Animes. Et c'est intéressant parce que, Claire, vous allez nous raconter aussi votre parcours et faire le lien avec cette ligue de, la Ligue de l'Enseignement et cette notion d'éducation populaire.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de quartier populaire et de dispositif, forcément, moi, ça rentre en résonance avec moi. Moi, je fais partie, j'ai arrêté l'école à 18 ans, parce que j'ai dû manger, en fait, parce que j'étais de l'aide sociale à l'enfance et que les contrats jeunes majeurs s'arrêtaient à 21 ans. Donc, vous aviez à 18 ans, 2 ans pour trouver les moyens d'avoir votre appartement et d'être autonome. Donc, ça crée une urgence. Moi, je suis rentrée dans le centre Paris Anime par un emploi d'avenir, à l'époque, et les emplois d'avenir, on les avait particulièrement si on n'était pas diplômé et qu'on vivait dans un quartier populaire. Donc déjà, moi, ces dispositifs de l'État, c'est celui qui a fait que je suis re-rentrée dans un dispositif. J'ai été femme de ménage pendant 2 ans, de mes 18 à mes 21 ans. À 21 ans, j'avais déjà le dos cassé, j'étais épuisée. Et donc ça a été pour moi une porte de sortie de la précarité. Et je suis aussi rentrée en politique au même moment. Je suis rentrée pendant la campagne de Ségolène Royal, post-CPE. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le contrat première embauche, qui a été le premier détricotage pour moi du droit universel à tout le monde, parce que vous aviez le droit d'avoir un CPE si vous étiez jeune. Donc déjà, jeune, on sait que la jeunesse, elle est particulièrement concentrée dans les quartiers populaires, il faut toujours le dire. Les quartiers populaires sont particulièrement jeunes, on oublie souvent de le dire. Et donc moi, c'était ma première révolte, c'était de me dire, en fait, j'ai pas de droit commun parce que je suis jeune et issue des banlieues, en fait, en résumé. Et moi, je suis rentrée au centre Paris Anime, j'étais animatrice jeunesse, j'ai fait agent d'accueil. Et petit à petit, je suis devenue responsable jeunesse, directrice adjointe et directrice. C'est comme ça que moi, j'ai construit ma carrière dans l'éducation populaire en étant moi-même accompagnée en tant que dans mon parcours d'éducation populaire.
Mais c'est quoi l'éducation populaire, en fait ?
En fait, la phrase commune qu'on dit, c'est l'éducation par tous, pour tous. C'est-à-dire de considérer qu'il y a besoin d'avoir un bagage culturel supplémentaire autour de l'école pour réussir à se construire dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'éducation nationale qui est souvent, qui peut être parfois excluante, qui peut parfois aussi pas reconnaître d'autres cultures, qui a une notion un peu de culture dominante parfois, donc de mettre sa place, de devenir soi-même créateur d'un savoir et d'émancipation. L'éducation populaire, c'est un autre espace qui permet de s'émanciper au-delà de l'école.
Au quotidien, vous, en tant que directrice de Paris Anime, vous avez cette démarche d'aller vers l'extérieur, de vous faire connaître, de rencontrer les gens ?
Alors, j'aimerais plus, parce qu'on veut toujours plus avec le temps qu'on n'a pas. Oui, parce que, en fait, maintenant, ça n'existe plus, les politiques publiques d'éducation populaire, où vous restez dans votre petit centre et les gens viennent à vous. L'offre, elle est tellement importante autour, qu'il y a forcément un besoin d'aller voir les gens. Et surtout, les gens, c'est ce qu'ils vont vous dire. « Ah, je suis passée à côté, mais je ne savais pas que vous existiez. » Je pense que j'entends cette phrase au moins une fois par semaine. Alors, on a beau avoir... on est en plein au milieu du quartier, en fait. Ils passent devant chez nous. On est en face de l'école. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ne savent pas qui on est, alors qu'on est en face de l'école. Donc on est obligé de faire cette démarche. Et de plus, il y a eu la rupture Covid, en fait. Il faut faire sortir les gens des réseaux sociaux et du réel pour faire. Et il y a eu vraiment une démarche compliquée de refaire venir les gens dans le physique et dans le réel.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans Paris Anime ?
Alors, centre Paris Anime, c'est 3 piliers, on va dire. Il y a un premier pilier qui est des activités régulières, karaté, judo, anglais, langue des signes, pole dance, qui est nos activités où les gens vous inscrivent à l'année, vous faites votre activité, vous venez le lundi à 17h faire de la pole dance, par exemple. À côté de ça, on a des salles de spectacle et de la programmation culturelle. Moi, au centre du Noir, on a une salle de spectacle. Ici, on a un studio d'enregistrement, donc vous bénéficiez. Donc voilà, qui est un espace de création de médias et de musique et spectacle actuel, qui est rare quand même, de spectacle vivant. Et un troisième pilier qui est l'accompagnement jeune, qui a lieu dans les 2 centres, donc un animateur jeunesse qui accueille de 15h à 20h des jeunes en accueil libre, où on va construire des projets avec eux et justement aussi l'animation co-construite avec eux.
Alors, ce qui est intéressant, en lisant votre brochure sur Paris Anime, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que, bien sûr, vous avez ces espaces où vous formez les gens, vous leur donnez des cours, etc. Mais aussi, et je reviens sur le thème de faire société, où vous aidez aussi les gens à se structurer en association. C'est ça ?
Alors oui, y compris pas que les gens, les jeunes aussi. Ah,
parce
on est
oui,
aussi...
c'est les gens aussi.
Non, mais on fait pas. Gens, parce que moi, j'ai tendance à redire les clashs d'âge, parce que les gens, à Paris, vous pensez tout de suite à une vingtenaire, trente-cinquenaire bobo dans l'imagination collectif. Donc, je répète souvent. Par exemple, la Ligue de l'Enseignement participe fortement au conseil d'administration des juniors assos. Donc, on accueille des juniors assos qui veulent se construire. On leur prête des salles pour s'organiser en collectif. Et aussi, les associations, on a des prix très bas ou même voire la gratuité pour la location de salles, la construction d'événements. Particulièrement, les jeunes compagnies de théâtre aiment bien les centres Paris Anime.
Mais ça, c'est formidable parce que, pour le coup, quand on dit à des jeunes, crée ton association, ça veut dire qu'il faut la structurer, il faut un président, il faut un bureau, il faut machin, etc. Et des règles aussi. Et donc, c'est déjà apprendre à faire société, ça.
Oui. Et en plus, nous, ce qu'on aide beaucoup, c'est qu'on considère que les gens doivent se mettre en réseau. C'est ce qui manque souvent au quartier populaire, c'est que qu'est-ce qui fait que vous arrivez moins que d'autres, c'est que vous n'avez pas de réseau. Et on s'est construit comme l'idée que la Ligue de l'Enseignement, on serait le réseau que les gens, que ceux qui n'ont pas de réseau ont. Donc, en fait, quand vous adhérez, vous pouvez adhérer à la Fédération de Paris. Rentrer dans le réseau et donc avoir de l'aide pour votre assurance, de l'aide pour avoir des locaux. Et parce que c'est... Voilà, on pense que l'éducation populaire doit pallier aux gens qui n'ont pas de réseau. Parce que c'est ça qui fait que régulièrement, vous n'accédez pas aux sphères de pouvoir.
Résidence 13, c'est quoi ?
Résidence 13, c'est un appel à projet qu'on fait pour les jeunes qui veulent construire justement un projet artistique, que ça soit art plastique, théâtre, création musicale. Et donc, il y a une sorte de commission qui est surtout pour les accompagner, parce qu'on recale peu de gens, ou alors c'est que le projet est trop avancé, qu'ils ne sont pas dans les bons espaces. Et on les accueille avec notre régisseur, de réussir à leur faire construire des fiches techniques. On les accompagne du coup avec les moyens techniques administratifs qu'on a à la Ligue, de comment on adhère à une association, comment on crée son statut pour pouvoir se faire financer, enfin voilà.
Alors, Paris Anime, c'est, vous savez, à peu près combien de personnes travaillent autour de Paris Anime ? Non, c'est un chiffre.
Oh, la colle !
Déjà, si on prend Dunois et Richer, parce que vous vous occupez de deux centres, Dunois et Richer.
Ça serait 32 équivalents temps plein. Et ce que j'aime bien comme donner comme chiffre, Dunois et Richer, c'est 2500 usagers semaine qui passent dans le hall, qui passent à la volée et qui peuvent juste passer prendre des renseignements. Mais c'est 2500 personnes qui sont touchées par semaine. Les deux centres regroupés.
Oui, de toute façon, nous, on voit effectivement que Paris Anime, c'est bien Anime, parce qu'effectivement, ce sont des centres de vie. Et puis d'ailleurs, c'est très sympa parce qu'on voit de temps en temps des jeunes qui se réunissent, tout simplement, à la limite, pour parler, pour échanger, pour phosphorer. Et je trouve ça formidable. Vous, en fait, cette image des quartiers populaires qui seraient des lieux de désolation et un peu avec cette image un peu misérabiliste, j'imagine que c'est quelque chose qui vous contre laquelle vous vous battez.
Alors moi, ça m'horripile particulièrement. En plus, si je dois repartir sur autre chose, c'est moi, je viens de Bagneux. Je suis élue à Bagneux et quand j'ai commencé mon mandat, c'était poste à faire à Ilan Halimi.
Oui.
Et donc on avait Bagneux, la ville de Youssouf Fofana, quoi. Quand je disais que j'étais élue à Bagneux, je voyais les gens ouvrir les yeux et faire waouh, tous ces lieux antisémites horribles, alors que c'était vraiment pas ma quotidienneté. J'avais fait le choix d'emménager à Bagneux pour en plus faire famille, avoir ma fille, enfin voilà, il y avait un vrai truc, quoi. Et ça, moi je sais que j'ai toujours trouvé une dissonance entre ce qu'on me racontait de ma ville et ce que je vivais dans ma ville. Et du coup, je me bats pour aussi qu'on se rappelle de c'est quoi nos villes, quoi. C'est des lieux, déjà, objectivement, quand on parle d'écologie ces derniers temps, c'est des villes fleuries. Enfin, moi, j'ai un parc de 2 hectares à côté de chez moi.
Oui, c'est pas l'image des barres de béton. Voilà.
Non, en termes de... Tout le monde nous parle de street art, mais aller dans les quartiers populaires, voir s'il n'y a pas de street art, s'il n'y a pas de la culture qui se crée dans la rue, ça serait une erreur aussi. Et justement, les gens se réapproprient notre art et en le vendent fortement, mais... En fait, la réalité, c'est que d'abord, c'est issu des quartiers populaires. Cet art de rue qui est à la vue de tout le monde, des musées ouverts. Moi, je peux vous en faire des balades dans les quartiers populaires. Vous allez voir que c'est pas ce que vous visualisez. Quand on parle de quartiers populaires, on parle de propreté, on parle de sécurité, mais pas du tout. C'est pas notre réalité, en fait.
Et puis surtout aussi des lieux d'innovation et ici et partout ailleurs. Et on va reparler d'ailleurs de... je vous propose, on va refaire une petite pause musicale. Parce que je voudrais qu'on parle après d'une notion qui est très très liée et qui est dangereuse, qui peut être perçue comme étant dangereuse, elle ne l'est pas du tout. C'est le lien qu'il y a entre le culturel et le politique. Votre action est politique, mais on va en parler. On fait une pause et on en reparle.
Vous écoutez Allegre FM.
Welcome to the show. Get ready to go. If you wanna go slow, no jazz won't let you go. Welcome to the show. Get ready to go. If you wanna go slow, no jazz won't let you go.
Here we are to make it real. That's how we make it. We turn into you, so come enjoy the living. May you bring your light to make her swing. Never ask myself if we can share it. Ain't no fortune could be guaranteed, but we're not a rich being generous for real. We're the only winning for ya, cause nothing comes without you. Yeah.
Welcome to the show. Get ready to go. If you wanna go slow, no jazz won't let you go. Welcome to the show.
Et oui, toujours sur Allegre FM, en compagnie de Claire Gabiage. Juste pour les auditrices et auditeurs, on venait d'entendre juste un morceau de No Jazz, le groupe No Jazz. C'est marrant d'ailleurs de passer du No Jazz. Bon, bah, bref, remarque à part, No Jazz, le morceau s'appelait Get Ready. Donc toujours en compagnie de Claire Gabiage, directrice de plusieurs centres Paris Anime. On commençait à échafauder quelque chose. Est-ce que votre action, elle est culturelle, elle est sociétale, est-ce qu'elle est politique?
Alors, c'est toujours un sujet épineux, ça. Parce que nos financeurs, on est apolitique.
C'est pour ça que je pose la question.
Ouais, on est apolitique, c'est-à-dire que dans le sens, on n'a pas de politique partisane. Mais par exemple, pendant le premier tour des législatives, on s'est positionné contre le Front National, qui était pour nous... Enfin, pardon, le Rassemblement National, maintenant qu'il a fait... Donc on s'est quand même positionné sur nos valeurs humanistes, qui est pour nous, c'est quoi une société de demain. C'était la première fois que plein de fédérations le faisaient. La Fédération des centres sociaux, c'était un moment... même les syndicats, en fait, ont assumé d'avoir cette part de dire, vu la montée du Front National qui arrive, enfin du RN, pardon, il faut se positionner. On est toujours sur une ligne très compliquée. Donc, on n'a pas de position politique partisane, ça c'est important, on est apolitique. Mais on a des valeurs qui sont pour nous importantes et qu'on met dans notre cahier des charges. Et donc, notre action, pour moi, elle est dans le sens politique noble, c'est-à-dire politique de la ville, de la cité, de faire vivre comme on définirait. Et souvent, les gens se sont éloignés de l'action publique. Et donc, pour moi, c'est surtout une action publique de faire vivre la ville.
Mais en fait, la question, elle est un petit peu piège, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de politique, mais effectivement, vous avez des subventionneurs qui sont à l'écoute et qui, voilà, donc dès qu'on prend une direction, vous allez déplaire à quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est très difficile. Puis vous dépendez aussi en partie des fonds publics, donc c'est toujours très difficile. Mais à partir du moment où vous êtes au cœur des questions de société et de la cité, forcément, de toute façon, c'est politique. Est-ce que, pour dire les choses autrement, est-ce que ce sont les centres dont vous occupez et l'action de la Ligue de l'enseignement sont des lieux de démocratie?
Ah oui, oui. Et enfin, pour moi, on est des lieux d'intérêt général, en fait. Enfin, c'est avant tout ça. C'est des lieux de démocratie, c'est des lieux de débat, c'est des lieux de discussion. Moi, je vous donne un exemple. Il y a un mois, on a fait un débat sur intégrer la musique dans les parcours d'enfants neuroatypiques. Ça vous paraît pas grand-chose, mais en fait, on a eu des parents qui sont souvent isolés sur l'accompagnement d'enfants autistes seuls, et on les met autour dans une pièce pour discuter des prises en charge possibles de leur enfant autrement. Et du coup, forcément, à un moment, ils ont parlé de la difficulté de déposer un dossier MDPH qui est perdu par les services de l'État souvent, que comment on se retrouve seul. De fait, sur le papier, c'était pas politique le sujet, mais en fait, ça devient un sujet pour eux quand ils se regroupent, de dire bah, comment l'action collective, on peut essayer de monter pour se protéger mutuellement dans un commun, en fait.
Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de démocratie, de la démocratie représentative qui ne représente plus rien, d'ailleurs, aujourd'hui. Enfin, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et que donc peuvent émerger des lieux de démocratie participative, et on imagine que justement dans des quartiers, on va dire les quartiers populaires, où beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas droit à la parole, ou en tout cas qu'ils ne vont pas être écoutés, vous avez un rôle à jouer dans ces quartiers. Et est-ce que vous sentez qu'il y a cette demande au sein des quartiers populaires de faire remonter une parole?
Alors oui et non. Je pense que les gens n'ont pas toujours conscience d'avoir envie que leur parole soit entendue, parce que la violence actuelles qui vivent, c'est-à-dire des problèmes financiers, il y a quand même une montée de l'austérité. Nous, on voit vraiment des gens qui viennent s'inscrire avec difficulté en payant 4-6 fois, auxquels on ne peut pas répondre oui parce qu'on a aussi des. Mais qu'on sent à réduire les activités qu'ils veulent faire, à ne pas venir sur des lieux, et on essaye de les accompagner là-dessus. On voit bien qu'il y a une montée de précarité particulière. Ben, nous, on a le premier rapport aux usagers, quand ils s'inscrivent, c'est leur feuille d'imposition. Donc, oui. Vous mentez sur rien quand vous avez une feuille d'imposition devant vous. Donc, on voit quand même des changements. Donc, je pense qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Et quand on arrive à leur créer des espaces de confiance, où on leur dit que leur parole est importante et qu'ils sont importants, ils se mettent à avoir envie d'être acteurs. Mais en fait, on oublie souvent un des trucs, c'est de renarcissiser les gens. De leur dire, en fait, ta parole est importante, tu as le droit. Tu as le droit de penser. Tu as le droit d'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas juste d'être consommateur, acteur. Parce que dans les centres d'animation, ça pourrait être rapidement ça. Hein. Je viens consommer mon karaté, mon judo.
Mais c'est ça, oui.
Et là, on te dit, bah non, en fait, tu as aussi le droit de dire, est-ce que tu veux que, moi, je vous donne un exemple, le dojo soit rénové? Est-ce que tu veux voter au budget participatif? Enfin voilà, on peut vraiment, on a une nécessité.
Oui, vous relayez, par exemple, le budget participatif?
Oui, on est lieu de vote.
Oui.
On est lieu de vote, on est lieu de campagne parfois, hein, je ne vais pas vous mentir. Le super dojo rénové qu'on a au centre du Noix, c'est les gens qui ont voté. Hein. Ouais. C'est les usagers. Enfin, il faut se rendre compte que les gens ne s'autorisent même plus à avoir le droit de penser au changement.
Oui, c'est ça, oui. C'est les gens pensent que leur parole n'est pas...
Mais parce que la vie, elle est dure. Il y a une chape de plomb sur la violence, sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils survivent. Donc, quand vous survivez, c'est compliqué de vous dire que vous pouvez être acteur. Enfin, il faut donner du temps aux gens pour leur dire, en fait, tu as le droit de faire autre chose que de survivre.
Alors, on a reçu, vous avez entendu à 8h, vous entendrez la semaine prochaine, mercredi, le directeur du conservatoire du 20e, et on a parlé justement de cette espèce de plafond de verre qui consiste à aller vers les gens qui pensent que les institutions, on a parlé du conservatoire, là on parle de Paris Nîmes, ne sont pas pour eux. C'est difficile pour vous d'arriver à briser ce plafond et faire prendre conscience aux gens que ce sont des espaces qui leur appartiennent, en fait.
Bah oui, parce que je vais vous dire la vérité, c'est le truc qu'on dit rarement dans les équipements, et ça c'est quelque chose que j'essaye de me mettre en mantra. Ben, parce qu'aller vers les autres, ça nous demande de perdre notre autorité de professionnel.
C'est-à-dire ?
Ben, en fait, on a les clés. On est le chef du lieu, d'un gros lieu comme ça. D'aller vers l'autre, d'accepter sa parole qui peut dire que peut-être potentiellement ma programmation elle est pourrie et que ça ne l'intéresse pas, ça me demande de remettre en question mon pouvoir de professionnel. Parce que le professionnel a un pouvoir, a une parole normative. Et ça, c'est très difficile d'accepter de se remettre en question face aux usagers. Et du coup, c'est inconfortable d'aller vers l'autre, d'aller dans la rue, qui vous disent « En fait, moi, j'en ai rien à faire de ta programmation d'un cycle d'une semaine sur la lutte contre les violences dans les quartiers. En fait, moi, j'ai autre chose à faire. » Bah ok, bah, c'est quoi ton autre chose à faire? Est-ce que je peux être là dans l'autre chose? Mais ça demande une énergie folle, ça demande d'accepter de se prendre des pains, au sens propre du terme parfois. Hein, mais en fait, tu ne m'intéresses pas. Tu es qui? D'accepter de créer de la confiance, de la remettre en question. Enfin, le professionnel de l'éducation populaire, il doit être constamment remis en question. Et moi, j'adore les travaux qu'on fait Laurent Haute sur un des centres sociaux qu'il avait sur, à Massy, sur particulièrement l'agent du voyage, qui disait qu'en fait, lui, il allait en bas des immeubles et juste il se posait et il faisait des activités avec les enfants. Et il disait que souvent l'éducation populaire arrivait d'abord par les enfants. Le changement, il arrivait par les enfants. Et ça, par contre, j'en suis sûre. Qu'on touche plus facilement les enfants, qu'on arrive à atteindre les parents en second temps.
Oui, merci. Voilà. Est-ce que, lorsqu'on parle de quartier populaire, d'ailleurs on aura une émission qui sera consacrée à ça, lorsqu'on parle de quartier populaire, on a l'image de ghetto. Ce qui peut se passer dans les quartiers populaires, ça peut rester dans les quartiers populaires. Est-ce que vous avez en tête cette notion, pardon, du terme de transversalité, de mixité sociale? Est-ce que vous allez au-delà? Est-ce que ce que vous faites au sein de centre de Paris Anime vous donne la possibilité de converser, de créer le lien entre les personnes qui sont défavorisées et les personnes qui le sont moins?
Bah, déjà,
ou est-ce que c'est ghettoisé, pardon?
Oui et non. Alors, premier point, déjà oui. Préalable, mais je vais minorer après. Vous, quand vous payez une activité, selon votre coef, vous ne payez pas le même prix au Centre Paris Anime. Donc, en fait, il y a quand même déjà une notion de répartition des richesses dans l'inscription. C'est-à-dire que si vous êtes coef 1, vous êtes à entre 80 et 90 euros l'année. Si vous êtes coef 12, donc ça veut dire à peu près l'ISF, vous êtes sur du 1000 euros. Et en fait, c'est déjà un...
Oui, mais c'est la même prestation.
Oui, mais du coup, ça va être déjà de mixité. C'est-à-dire que vous aurez la même qualité d'enseignement, que vous soyez riche ou pauvre. C'est-à-dire que votre cours de musique, de violon ou de piano, en fait, vous aurez le même prof, quel que soit votre coiffe.
Alors, pardon Claire, je vais poser la question autrement. Parce que, je comprends bien cette... mais est-ce que, par exemple, des gens qui sont plus favorisés financièrement, pour dire les choses concrètement, qui sont dans ce quartier, viennent?
Oui.
Est-ce que vous arrivez à attirer ces...
Oui, mais grâce à la qualité de l'équipement. En fait, les gens, ils viennent... quand vous avez un dojo de 2000 m² refait à neuf, en fait, vous venez, parce que vous savez que c'est... Enfin, moi, je pense qu'il faut maintenir une propreté, une beauté des équipements, parce que c'est ce qui fait de la mixité sociale. C'est qu'un COEF 12, il viendra, si le professeur est très qualifié, et pour le coup, on fait des recrutements avec des gens... Vraiment, on minore régulièrement la qualité des intervenants dans les centres Paris Anime. Et quand les gens le savent, en fait, ils restent. Enfin, moi, je pense que j'ai un niveau d'enseignement de musique qui est hyper intéressant dans un centre Paris Anime. Et en plus, tu vas rencontrer des autres, tu vas jouer en collectif.
Hein. C'est ça.
En plus, il y aura un stipe hyper intéressant supplémentaire. La qualité de l'équipement, la qualité des professeurs et des recrutements fait que tout le monde viendra. C'est même majoritairement les gens qui pourraient bénéficier des COEF bas qui ne viennent pas. Les COEF 1 ou 2 qui ont du coup une appréhension de l'équipement public et qui viennent moins parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour lui. C'est bien le problème, c'est qu'on sait très bien que le non-recours au dispositif, c'est souvent les plus pauvres qui n'ont pas recours au dispositif.
Ouais. Franchement, c'est passionnant parce que justement cette sortie de notion de ghettoisation, eh ben, on les retrouve dans des lieux comme les vôtres. En fait, quand nous, on vient faire de la radio, on voit les gens qui attendent leurs enfants, etc. Et on voit qu'ils viennent de milieux sociaux différents. Et même si ce n'est pas forcément visible, mais enfin, on le présuppose. Et ils discutent entre eux. Et, ce lien social se crée. C'est-à-dire que ce que vous faites là, ce n'est pas simplement de permettre la création, de permettre de faire société, mais aussi de créer du lien social. Et c'est ça l'atelier de la démocratie, c'est effectivement de permettre ces lieux d'échange.
Ouais, de les permettre et de les accompagner. En fait, il y a aussi un truc que moi, je trouve qu'on oublie souvent, c'est que ça coûte de l'argent de faire du lien social. Ça coûte des professionnels qui font de la médiation. En fait, c'est pas pour moi, je donne souvent cette image, c'est pas des planches, vous mettez des planches et des clous à côté, vous n'allez pas avoir une étagère, en fait. Il faut quelqu'un qui prenne les clous, qui prenne un marteau, et c'est ça notre rôle de professionnel, d'accompagner ça. Et en fait, régulièrement, les gens disent, ah, vous avez un lieu, il y a les gens, ils vont faire du lien. Ben non, en fait. Le lien d'aller vers l'autre, ça s'apprend. C'est des codes, c'est compliqué. Ça demande de la médiation. Du coup, on oublie le coût du lion. Et nous, moi, je considère qu'on est le lion.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, il y a un point important, parce qu'on parle de mixité sociale, mais il y a aussi de l'intergénérationnel. Je vois dans votre brochure sur le projet d'éducation populaire, je vois 4 piliers. Jeunesse, citoyenneté, solidarité et accès à la culture et aux loisirs. C'est les 4 piliers qui ressortent là, mais ils ne sont pas limitatifs. Il y a un point important aussi, c'est est-ce que le lien intergénérationnel, ça fonctionne? C'est-à-dire que, juste pour préciser les choses, les centres Paris Anime, ce n'est pas que pour les petits-enfants qui viennent prendre un cours de guitare, hein, que les choses soient claires.
Non, non, c'est de zéro à jusqu'à que vous puissiez venir dans notre centre. Le lien intergénérationnel, ça marche si c'est bien accompagné, parce qu'il y a aussi toujours un truc de un public en chasse un autre. Donc il faut réussir à créer justement un lien de qualité qui fait que les gens oublient l'âge qu'ils ont et ce qu'ils amènent.
Et vous pouvez faire travailler des jeunes de 10 ans avec des vieux de 60 ans?
Si le projet...
Des personnes plus âgées, pardon.
Je vais me faire jeter des cailloux par mes seniors, faites attention, je vais vivre... oui, ça peut marcher justement avec un projet construit, avec des espaces pour chacun, un respect du rythme pour chacun. Et c'est là où c'est tout l'intérêt d'avoir des professionnels formés de qualité. C'est qu'il sait où aller. Il sait qu'il ne propose pas la même chose. Et par exemple, moi, j'ai des cours d'aquarelle où le plus jeune, il a 20 ans et le plus vieux, il a 75 ans. Enfin, parce que enseignant de qualité qui se retrouve. Et souvent, j'ai aussi un truc très intéressant. J'ai beaucoup de seniors femmes qui viennent après avoir élevé leurs enfants, machin, et qui disent, en fait, j'ai toujours rêvé de faire de la danse contemporaine. Ben, pas de problème, il y a un cours de danse contemporaine. Ah oui, mais moi, avec mes petits os, Mais en fait, on va prévenir l'intervenante, et vous allez voir. Et qui se retrouve avec des danses contemporaines, d'une passion éteinte, qui se retrouve à danser la danse contemporaine à 62 ans, parce qu'elle commence sa retraite et qu'elle a du temps.
J'adore parce que en même temps que Claire parle, on voit ses yeux qui s'illuminent, elle a le sourire et effectivement on la sent engagée et heureuse dans ce métier-là. C'est quoi vos plus grands succès là, depuis que vous êtes, vos fiertés?
Je vais vous raconter un truc assez marrant. J'ai programmé il y a 2 ans le premier spectacle de drag queen dans un centre Paris Anime. De Rive Gauche, parce qu'il y a peu de drag queens qui venaient Rive Gauche, et je me suis trouvée avec une salle entre 16 et 80 ans. Et ça, pour moi, et de voir les grands-mères vouloir prendre des photos avec les drag queens pendant que j'avais sur scène des artistes qui étaient leur première show, qui avaient 18 ans, accompagnés par des drag queens de 30 ans, bah là, je savais que j'étais au bon endroit. Et ça paraît pour... Et quand je dis aux gens, mais moi, j'ai programmé des spectacles de drag queens au Centre Paris Anime, ils me disent, quoi? Mais attends, Claire, c'est complètement déconnecté de ton public. Je sais pas, t'es venue dans la salle? Non. Tu sais pas ce que c'est. Donc viens dans la salle et tu verras. Et c'était assez dingo et c'était un peu enthousiasmant, quoi.
C'est-à-dire que votre métier, vous le concevez comme aussi une prise de risque au quotidien?
Ouais.
Enfin, pas au quotidien, mais...
En fait, je pense que si on fait des trucs ennuyeux et qu'on s'ennuie, les gens s'ennuient et viennent pas. C'est ma théorie. Je pense que... On véhicule ce qu'on a envie de faire. Et je pense que chaque centre Paris Anime a un peu une couleur par la direction qui la prend et qui la gère.
Et vous, votre couleur, c'est le risque, alors, visiblement.
C'est le risque, c'est... oui, enfin, le risque, un risque quand même modéré avec des conventions et tout ça. Hein. Monsieur les financeurs, me virez pas tout de suite. Mais en tout cas, un truc où on peut s'autoriser à faire des choses. Et j'ai de la chance, pour le coup, d'être à la Ligue de l'enseignement qui m'autorise à faire des choses. Et ça, c'est assez rare. Parce qu'on discute des risques de ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on amène. Et en fait, vu que nous, on est toujours très câblés sur les valeurs et qu'on sait pourquoi on le fait, on se dit, j'ai souvent de l'accompagnement par mon siège et par la FEDE qui dit, OK, tu peux y aller, on va le faire.
Alors là, par exemple, aujourd'hui, vos projets là, immédiats, là, en ce moment, sur les deux centres de Dunois et Richet, est-ce qu'il y a des...
On a un mois de lutte contre les discrets qui va arriver avec des programmations, des projets. Alors là, je ne les ai pas sous le coude, mais à suivre. Tous les centres Paris Anime font une programmation croisée sur le mois de lutte contre les discriminations. Voilà.
Et là, comment vous communiquez là-dessus ?
On a une brochure, on a un site, on a tout est sur ligio.org. c'est hyper. Et on a chaque centre Paris Anime a un peu sa page Instagram et Facebook sur lequel on communique beaucoup.
Très bien. Bah, Claire, un immense merci d'avoir participé à cette émission. On vous sent effectivement engagée. On sait qu'on peut suivre aussi votre actualité. Je crois qu'on peut vous suivre aussi. Vous avez une actualité aussi au sein de la mairie de Bagneux. Vous participez à des débats. Il y a des grands sujets de société qui sont importants. On parlait hors antenne des débats que vous avez pu animer et mener autour de notamment de l'affaire de Mazan, dont tout le monde parle et qui sont quand même très révélatrices, très révélateurs d'un vrai sujet de société sur les violences faites aux femmes. C'est aussi l'éducation populaire, c'est aussi, aussi de l'éveil, c'est ça ? Aussi de l'éveil sur ces questions de société ?
Oui. En fait, l'éducation populaire, pour moi, c'est passer au-delà de l'émotion. Il y a de l'émotion, donc l'affaire Pellico particulièrement, il y a une émotion. Et en fait, ok, une fois passée l'émotion, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus et qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit capé, pour pas être que dans l'émotion, mais dans le faire aussi.
C'est effectivement des. En fait, nous, on a besoin tous, je crois, de lieux où on donne du temps au temps pour réfléchir collectivement. Vous voyez, c'est ce qu'on essaye de faire sur Aligre, en essayant de s'intéresser justement, donner la semaine au quartier populaire. Un grand merci, je rappelle Claire Gaillac, donc directrice de... Alors en fait, en vous entendant, moi je bute pas dans le 13e, mais ça me donne envie de m'inscrire à plein de choses à Dunois ou à Richer, parce qu'il y a vraiment plein de choses formidables qui se passent. Et ça permet justement de sortir de cette image des quartiers populaires ghettoisés et misérabilisés, j'invente un mot. Et merci, grâce à vous et grâce à votre action, on voit qu'il se passe des choses absolument formidable. Mon confrère aurait dit c'est une étincelle dans la ville.
J'ai fait cette émission, je crois.
Vous l'avez fait. On peut aussi vous retrouver en podcast, dans une émission que vous aviez fait. On la retrouve assez facilement.
Je vais emménager si ça continue.
Vous allez emménager. Vous êtes chez vous en même temps, donc emménager chez vous avec grand plaisir. Claire, un grand merci. Donc on va se quitter. Donc je vous rappelle quand même les grands rendez-vous que vous allez avoir au cours de la semaine. Vous allez rencontrer le sociologue Éric Hamelin, sur le thème comment habiter un quartier populaire. Vous allez retrouver, vous l'avez eu à 8h, mais vous allez retrouver Emmanuel Auriol, directeur du conservatoire du 20e arrondissement. Thomas Clair viendra parler de son livre sur le 18e arrondissement, c'est Paris Musée, musée du 21e siècle, Éric Pessan qui viendra parler de ses ateliers d'écriture qu'il fait en milieu défavorisé, intéressant. Thibaut Tellier viendra parler de l'histoire des banlieues. Pierre Guibert viendra justement creuser la question de les quartiers populaires, défaire le mythe du ghetto. On a commencé à échafauder un peu quelques pistes de réflexion. Les responsables de Positive qui viendront parler de ce qu'ils font sur l'aide au retour à l'emploi dans les milieux défavorisés. Et puis Mathieu Brault, le chef d'orchestre de fondateur de ce formidable ensemble des notes qui met la musique entre guillemets savante au cœur des quartiers populaires. Claire, un grand merci. Je remercie à la technique Kumba et Sefraim qui sont derrière la vitre. On va se quitter avec un dernier morceau. Je ne sais plus ce que c'est. Si, c'est le groupe Delgrès et c'est Mo Jody. Et à suivre, vive le cinéma. Merci Claire. Mais pas laisser vous faire.
Mm-hmm.